proviennent. Dans les leaders, on a étudié une cinquantaine de leaders pendant la pandémie, mais on voyait vraiment que justement une grande majorité venait de l'extrême droite à la base, mais il y avait une grande variété là, de gens qui venaient de l'altar science, des mouvements religieux, anti-gouvernementaux et même QAnon éventuellement. Donc purement QAnon. Et on a voulu se lier avec certaines idéologies politiques. On parlait tout à l'heure, on a parlé un peu de Fox News, on a parlé un peu de Trump, un peu de Poilievre. Mais on l'a vu dans nos sondages, ça a été posé, Éric Duhem n'a pas aimé, mais si vous avez écouté 5 chefs d'une élection, ils ont référé à notre étude, parce qu'ils ont fait réagir Duhem au fait que, selon notre étude, ce qu'on voyait, c'est que les gens qui avaient le conspirationnisme, ben, votaient beaucoup plus pour le Parti conservateur du Québec que les autres. Donc, il y avait vraiment un lien idéologique. Et au niveau fédéral, ben, on parle du Parti populaire de Maxime Bernier, qui s'est vraiment présenté un peu justement comme une figure qui contestait l'autorité. Puis, bon, on peut voir peut-être qu'il y a certaines tentatives de reprise politique vers ces gens-là qui sont un peu fâchés envers le système puis méfiants. Et donc, c'est des gens aussi qui vont davantage avoir confiance envers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux alternatifs, puis moins consulter les médias, mais quand même, consulter la radio notamment, beaucoup, il y a certaines radios parlées qu'on peut comprendre, voilà. Et donc, dans les cercles conspirationnistes, il y a cette grande méfiance-là envers le gouvernement, le politique, puis on l'a vu notamment pendant les élections, ce qui est arrivé notamment, ça n'a pas levé une chance, ça n'a pas sorti des cercles conspirationnistes. On vient de faire un rapport qui va sortir, on a fait une veille électorale pendant les élections sur... Le discours chez les cercles conspirationnistes sur les élections. Puis on a des collègues d'un centre d'études à McGill qui ont fait la même chose, on ne savait pas, on ne s'est pas parlé. Ils ont sorti leur rapport, on a fait un événement ensemble, puis on avait les mêmes résultats, donc c'est bon signe. Mais on a vu donc cette espèce de montée-là de discours qui sont restés vraiment dans les cercles conspirationnistes, qui n'ont pas percé la population, peut-être parce que les médias n'auront pas fait écho notamment. Il y avait vraiment cette idée-là, déjà bien avant le jour du scrutin, que les élections allaient être fraudées. Que ce serait pas qu'on n'aurait pas vraiment l'idée des résultats réels. Puis ça vient un peu des États-Unis. Hein. Quand on regarde aujourd'hui, là, le trois quarts des républicains pensent que l'élection de Trump et l'élection de Biden était frauduleuse plutôt, mais il y a même beaucoup de démocrates qui croient ça, ce qui est encore plus inquiétant. Mais donc, ça n'a pas percé ici. Même avant les élections, on disait la fraude électorale est évidente. Il y avait tout un discours chez les sept conspirationnistes. On vote, par exemple, avec un crayon de plomb pour effacer nos votes. Imaginez comment ça serait laborieux, mais donc, il y avait ce discours-là qui, par chance, est resté un peu dans ces cercles-là. Et donc, ça crée une grande méfiance envers le système, envers la démocratie, envers le gouvernement. Et ce qu'on voit vraiment, pourquoi être à charge, UNESCO travaille sur le complotisme, on se le faisait demander souvent, mais on n'est plus vraiment à ça parce que là, on a qu'on travaille là-dessus. Mais l'adhésion conspirationniste suit quand même bien l'échelle, par exemple, de polarisation violente. On va voir qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent au conspirationnisme selon le niveau d'adhésion et la force d'adhésion. Plus qu'on croit, plus qu'on va être vraiment dans un schéma de polarisation violente. Donc souvent, je voulais dire, la base d'adhésion conspirationniste la plus forte semble être bon, une détresse psychologique, un problème, un isolement ou autre, mais aussi beaucoup une méfiance envers l'altérité, envers l'autre, une anomie, une impression que je ne peux rien changer des choses, les médias, c'est des gens plus éduqués, plus lettrés, qui ne me ressemblent pas, le gouvernement aussi, les scientifiques, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, une espèce de remise en cause du vivre ensemble, j'ai l'impression qu'on manipule, puis qu'on est en train, finalement, qu'on n'a pas de reprise de contrôle sur la société. Et donc, ça amène tranquillement une polarisation négative des discours, à des opinions de plus en plus radicales, le gouvernement est mauvais, eux contre nous, etc., des boucs émissaires. Et donc, ça favorise vraiment une radicalisation, où ce qu'on a vu beaucoup, dans les familles, hein, je ne sais pas si vous en connaissez, mais il y a beaucoup de confrontations de gens qui ont arrêté de parler à leur famille, à leurs amis, à leurs proches, parce qu'ils ne croyaient pas qu'on était dans un complot, qu'ils ne croyaient pas que la COVID était faux, qu'ils se faisaient vacciner. Il y a eu énormément de ça. Moi, j'en reviens pas encore de certaines formations qu'on donnait où trois quarts de la salle levait la main en disant qu'il y avait un proche qui adhérait à ces idéologies-là, qui avait perdu contact. Contact très difficile. On a été appelé beaucoup dans des ordres professionnels, dans des fédérations qui nous disaient « Pouvez-vous venir donner des formations? » Parce que dans le milieu de travail, ça crée tellement de tensions, on ne sait plus quoi faire. Et donc, ça emmène pour certaines personnes, je vous l'ai montré tantôt dans les données, mais à percevoir la violence comme légitime, même éventuellement un engagement dans la violence. Et donc, ça aussi, c'est ce qui nous préoccupe à la chaire. On a commencé à le documenter. Il y en a eu plusieurs. Depuis le début de la pandémie, on a vu une hausse des crimes en ligne, donc des menaces, menaces de mort, menaces violentes envers différentes autorités. Même en tant que chercheur, ce serait un autre discours qui serait bien intéressant pour des anciens professeurs que vous êtes, mais dans l'équipe de recherche, à un certain moment, il a fallu prendre des mesures à l'université, on n'avait plus nos noms sur nos bureaux parce qu'on avait reçu certaines menaces après la publication de nos rapports. Donc, il y a des gens qui peut-être décideraient de plus faire de recherche là-dessus ou se prononcer publiquement devant ce genre de choses, ou parfois avoir la coine dure. Mais ça s'est aussi soldé dans des attaques envers des politiciens comme Jeff Mintzing, vous avez peut-être vu, envers des gens qui sont armés puis qui allaient faire un passage à l'acte s'ils n'étaient pas arrêtés, et parfois carrément un passage à l'acte. Donc, le conspirationnisme peut mener à ça. Puis on note notamment une augmentation des crimes haineux par des idéologies, notamment de droite radicale dans ces dernières années. Puis, il y a peu de temps, on a donné une conférence avec le SCRS, puis le SCRS, c'est qu'une de ses plus grandes préoccupations sécuritaires en ce moment, c'était le conspirationnisme, parce que ça emmène des gens à vouloir passer à l'acte, à croire à la sécurité ou au système. Puis, ben, nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que c'est la prochaine crise. La pandémie a déstabilisé, mais là, la prochaine crise, quand ça a un impact sur nous, que ce soit des mesures qu'on va prendre pour nous protéger avec l'environnement, par exemple, mais quand ça a un impact sur notre vie, comment on va réagir, la récession, tout ça. Donc, il faut agir. Ça m'emmène vraiment à la fin de ma conférence. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de recette magique, mais en ce moment, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas mal de mes projets de recherche en ce moment sont orientés là-dessus. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui se fait, puis quel effet ça a, comment on peut peut-être améliorer les choses. Je vais en reparler, mais bon, une des pistes de solution, hein, c'est vraiment de ce qu'on parle dans le livre, notamment, c'est individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, maintenir le dialogue. Quand on a des proches qui croient conspirationnistes, pas les laisser s'isoler, pour pas qu'ils escaladent une adhésion de plus en plus forte, puis un passage peut-être à l'acte violent. Donc, de maintenir un lien avec la personne, c'est pas facile, là. J'en en côtoie. Nous, on en a interrogé beaucoup de. Vous allez voir sur mes élèves, on a interrogé des conspirationnistes. On en rencontre souvent. Maintenir le lien quand ils nous mitraillent toutes sortes de théories fumeuses, ou souvent ils ont plein de chiffres. Les autres, ils ont du temps pour faire ces recherches-là. On ne peut pas tout désamorcer ça. Donc, c'est pas une bonne idée d'aller les confronter sur leur territoire. Le mieux, c'est de juste être là pour dire ben, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi sur ces croyances-là, mais on peut parler d'autres choses. On peut aller marcher, on peut faire une autre activité. Parlons pas de ce qui nous divise. Ou quand on est avec la personne et qu'on est à l'aise, mais on peut l'emmener à juste qu'est-ce qui t'emmène à croire ça? Pourquoi tu crois ce que cet influenceur-là dit en ligne ou ce que cette personne-là dit? Pourquoi tu crois du dire à eux, mais tu ne crois pas la santé publique? Des fois, juste d'emmener à réfléchir, ça peut aider la personne à relativiser. Mais c'est pas facile, c'est pas nécessairement clair que ça va arriver. Comme on le dit en ligne, on dit. Si vous n'êtes pas à l'aise, à un moment donné aussi, il y a nos limites personnelles. On n'est pas obligé de sauver le monde si on est en train de se rendre malade à le sauver. Mais on peut au moins essayer de maintenir le dialogue parce que la personne, à un moment où elle va avoir besoin d'aide, puis peut-être vouloir décrocher, se rendre compte qu'elle est amenée, qu'elle est isolée, bien, c'est quand elle va avoir le lien qu'elle va sentir.
Je comprends l'importance de maintenir le dialogue, mais s'intéresser aux arguments de l'autre, est-ce que ça risque pas de valoriser la dérive?
Ça, c'est l'équipe polarisation sociale qui a fait ces slides-là. Donc, c'est une équipe avec qui on travaille beaucoup en collaboration, l'équipe notamment de Cécile Rousseau qui est à l'Église. On est vraiment ensemble dans le RAS. Et eux, ce qu'ils veulent dire par là, c'est de laisser la personne pas s'intéresser vraiment à ses faits, mais justement à ses croyances. Pourquoi tu crois ça? Qu'est-ce qui t'emmène à croire à ça? C'est un peu ça que je voulais dire. Donc, pas s'acharner à démontrer qu'on a raison parce que là, elle va juste être sa défensive et donner plein de chiffres, mais plus l'amener à parler, elle, de qu'est-ce qui l'amène à croire ça. Mais c'est pas toujours facile. Il faut pas faire ça en grand groupe. Hein. C'est pas le temps dans un souper de famille de commencer à essayer d'attaquer la personne. Il faut le faire dans un moment où on est calme entre nous, en deux. Donc éviter justement les confrontations, les escalades, comme je le disais. Puis confirmer des fois que certains sentiments sont normaux, d'être stressé, d'être inquiet sur tout ce qui se passe en ce moment. On n'a pas. Peut-être quelques années que c'est pas facile. La société, c'est un peu inquiétant de voir tout ce qui se passe. En tout cas, nous, hier, j'en parlais avec des profs, puis je m'inquiétais de voir à quel point certains profs sont découragés de la situation politique, sociale. Donc, on peut le reconnaître, puis des fois, ça aide de sentir que c'est normal de se poser des questions, d'avoir des frustrations. Je donne un exemple dans le livre qui est vrai aussi, où je parlais à quelqu'un, puis je parlais, il savait que j'écrivais le livre avec David. Puis il me dit, ben c'est parfait, t'écris un livre sur moi, je suis complotiste, moi, qu'est-ce que t'as à dire? C'est parfait, t'es complotiste, explique-moi pourquoi. Ah ben, je suis complotiste, moi, parce que je sais que, mais il y a eu des études qui étaient erronées puis qui ont été malmenées pendant la pandémie, puis que la méthode n'était pas fiable, puis de l'ambition de torturer des études. J'ai dit, t'as raison, c'est pas être complotiste, il est arrivé certains chercheurs qui ont voulu faire trop vite ou peut-être être reconnus puis qui ont pris des mauvaises méthodes. Dans les faits, de l'Anset a retiré des articles, ce qui a peut-être pas nuit à la confiance envers la science, mais c'est exact. Je dis quoi d'autre? Ben, je suis pas sûre, moi, que le passe sexuel, c'est une bonne chose. T'as raison, on pourrait se demander si tu es politique, si tu es économique. Je dis quoi d'autre? Ben, c'est ça. Ben, t'es pas complotiste, t'es critique. Ah, ben, peut-être, finalement, je suis pas complotiste. Donc, des fois, on ramène. Cette personne-là, c'est vraiment parti comme ça. Là, ben, je suis peut-être pas si complotiste. Mais non. Donc, trouver des solutions, connaître ses limites, puis se trouver des liens. Et juste, dans nos rapports, je finis là-dessus, mais dans nos rapports, nous, ce qu'on a mis de l'avant, on a comme une carte grand pôle d'action potentielle qu'on veut investiguer, puis c'est là-dessus aussi qu'on concentre beaucoup nos recherches maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'est bien beau individuellement, mais en tant que société, c'est le moment avec une autre crise éclate de penser à comment on peut changer les choses. Ben, un de nos pôles d'action potentiels, c'est la connaissance et l'information. Donc, on doit miser sur plus de connaissances du fonctionnement des médias. J'en ai parlé beaucoup là, pendant la conférence, mais beaucoup de gens ne comprennent pas le fonctionnement du journaliste. C'est quoi du journaliste d'opinion versus d'information, la différence avec quelqu'un qui fait ses recherches. Et en ce moment, moi, je m'inquiète beaucoup de plusieurs leaders complotistes qui ont des faux sites et ils se disent journalistes. Mais ils ramassent toutes sortes d'affaires qui confirment leur opinion en disant que ça, c'est des articles d'information. Ça crée une telle confusion chez les gens qu'il faut éduquer aux médias, il faut éduquer aux algorithmes, au fonctionnement d'Internet pour que les gens au moins puissent choisir leurs sources en toute connaissance. Il faut éduquer à la science. Comment on fait une étude scientifique, justement? Pourquoi une étude peut en contredire une autre? Comment on construit un échantillon, etc.? On l'apprend très peu à l'école. Les gens disent que c'est appris partout. C'est faux. Il y a des gens qui ont étudié en médecine puis qui savent comment appliquer un protocole, mais ils ne savent pas nécessairement comment la recherche s'est faite. Et comment fonctionne le système politique, la démocratie, les débats. Et donc, en ce moment, là, notamment, là, avec l'équipe, on a trois grands projets de recherche où on suit des initiatives d'éducation aux médias, notamment une avec l'agence Science Presse, on en a une avec les As de l'Info. On essaie de voir, mais qu'est-ce que ça fait chez les publics qui ont ces formations-là, pour moyen long terme? Est-ce que c'est à long terme, ça aide? On se dit, bien, les initiatives qui marchent, on peut-tu les rendre plus uniformes, plus universelles? Mais aussi, on est conscient, on fait en ce moment beaucoup de pression avec le politique pour que ça ne se fasse pas juste des écoles. Parce que je vous dis, c'est jusqu'à 55 ans l'adhésion forte. Il faut aller rejoindre ces gens-là dans les milieux de travail, dans les loisirs. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux rejoindre les gens sur le terrain. Travailler sur la confiance, donc rebâtir un dialogue démocratique, donner plus d'antennes pour les citoyens pour s'exprimer sur la démocratie et relégitimer le débat. Continuer d'avoir de la vigilance, donc... on dit que c'est important aussi d'avoir de la recherche, continuer à comprendre ce qui se passe, documenter, pour réagir à temps. Hein, je vous disais, on a vu le complotisme arriver avant qu'il arrive, mais on peut-tu mieux le documenter pour y réagir? Puis renforcer l'assistance, notamment pendant nos travaux, là, le peu d'intervenants qui sont là sur le terrain, qui travaillent avec les individus radicalisés et qui adhèrent très fortement au complotisme, ont quand même peu de moyens. Donc, il y a des groupes comme ceux de polarisation sociale. Il y a le Centre de prévention de la radicalisation dans la violence à Montréal qui nous a dit que depuis ils ont eu plus d'appels. Donc, ils font des groupes de famille, des groupes de soutien avec des amis qui ont des amis complotistes, tout ça. Mais ils ont besoin de moyens. InfoSec, j'en parle même pas, ils sont deux. Puis, en tant que chercheur, mais je voulais finir là-dessus parce que je savais que j'avais un public de professeurs, mais on se demandait, nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis, avec des collègues, on a créé, je ne sais pas si vous connaissez, Science Up First en anglais, en français ça s'appelle La Science d'abord. J'aurais dû mettre peut-être le visuel francophone, mais La Science d'abord. On a essayé de créer un groupe, dans le fond, qui a vu Pérenne, donc il continue maintenant encore, puis on espère qu'il va continuer longtemps, qui vise à vulgariser les consensus scientifiques. Donc, ce que La Science d'abord on fait, c'est qu'on essaie de voir des problématiques qui circulent en société, de fausses informations, de fausses croyances. Puis donc, on se base sur le consensus scientifique pour rétablir les faits. Et on fait vraiment des visualisations, des illustrations qui vont sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. On fait sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. On a des influenceurs sur TikTok, mais un peu partout, on peut investiguer la désinformation. Mais il faut aussi des cafés, des tables de discussion, des symposiums. Donc, plein d'événements, grand public, basés sur le consensus scientifique pour déboulonner des mythes et la désinformation. Fait que je vous invite à aller voir, si vous avez la chance, la science de la barre. Il y a plein d'activités auxquelles vous pouvez participer. Puis, on est financé par notamment les Centres des sciences du Canada. On espère pouvoir durer longtemps, mais c'était comme une petite initiative qu'on se disait en tant que chercheur, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Donc, c'est ce qu'on a fait et qu'on essaie de continuer à faire en ce moment. Donc, voilà. Merci. Est-ce que vous...